L'Angeur.
Bon lundi! Bienvenue à l'émission L'Angeur sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est présentement midi 2. À la météo, il fait 1 degré. C'est un ciel ennuagé, avec des petits brins d'éclaircies. Et c'est ce qu'on prévoit pour aujourd'hui, avec possibilité peut-être d'averses de neige. Avez-vous vos pneus d'hiver? Avez-vous pelleté en fin de semaine? J'ai pelleté hier.
T'as pelleté quoi?
Mon patio. Ouais, j'ai pelleté un peu dans l'entrée aussi pour que quand le déneigeur passe, qu'il ramasse le gros mâton.
T'avais-tu de la glace?
Non, j'avais pas de glace. Puis je me rends compte que je suis peut-être bizarre. J'aime ça pelleter.
Non, t'es pas bizarre. Au début de l'hiver... Ben, à la fin de l'hiver, à vous, t'es
allé. Oh, à la fin de l'hiver, je vais être heureux, là. À la fin de l'hiver, je vais être comme n'importe qui, là. Quand en mars, il va nous retomber une tempête de 25 cm,
je vais non, faire, non, non. Hey, là. Là, c'est assez. En mars, des fois, c'est en avril. La gang de week-end, tantôt, parlait autour d'un bureau. Ouais. Et il y avait quelqu'un que je n'aimerais pas qui disait: moi, ma blonde, elle veut que je déneige tout le temps, tout. Il faut que le patio soit tout déneigé, puis là, sinon, ça va pogner, puis ça va glacer, puis ça va. Moi, je suis tellement de l'école de sa blonde, là. C'est comme, à un moment donné, tu perds le contrôle.
Ah ben, t'as raison.
Faut pas jamais que tu perdes le contrôle.
Ah non, faut jamais
que tu... Il disait, ouais, mais on n'aurait rien qu'à mettre du sel. Mais oui, mettre du sel sur ton patio.
Non. Moi, c'est pour ça que le patio aussi, je suis un déneigeur de patio. Je veux pas perdre le contrôle de mon patio.
Si tu veux un patio pendant l'hiver, let's go. Si ton patio est une sortie de secours aussi, CV va dire déneige.
Ouais. Bravo.
Mais la couche de glace en dessous là, qui va se faire, là, ça va être... des fois, une coupe de pouces.
Le
sel va rien faire. Je suis complètement d'accord. Ah ouais, gratte ça.
C'est gratte avant que ça pogne en pain.
Ouais. Clairement.
On est tous d'accord. Quelle belle unanimité.
Ah, c'est fou.
On vient de régler bien des problèmes dans des couples.
Et là, parlant de neige, il n'y a pas de neige à l'horizon pour cette semaine. 3 degrés nuageux demain, 2 degrés alternant soleil et nuages mercredi, 0 degrés alternant soleil et nuages jeudi. Donc, vous pouvez ranger vos pelles. Il n'y en aura pas de neige cette semaine. Mesdames, vous avez passé un beau week-end?
Ben oui.
Oui?
Oui, mais... Ouais, c'est parce que je vais te dire la vérité, là. Moi, j'avais deux personnes. Ben, j'ai deux personnes dans ma vie qui ont décédé en fin de semaine.
OK. Mes sympathies.
C'est gentil. C'est...
Je te ferai un gros hug tantôt.
Je pense plus, mettons, aux gens qui sont concernés très, très, très proches, mettons, la famille et tout ça. Puis, c'était ma première expérience d'aide médicale à mourir, dans le fond, d'être témoin. Puis, je trouve pas encore les mots sur ce que j'ai vécu. Je sais pas encore comment a été mon rapport avec la mort là-dedans. J'ai trouvé ça beau et triste. Énormément triste en même temps, mais si beau comme départ où tout le monde peut se dire bye, puis jaser, puis des semaines avant. On en reparlera, mais j'essaie encore de me faire une tête là-dessus.
C'est ce qu'on va faire, je te laisse cogiter là-dessus, puis quand tu es prête, on en reparle en nombre.
Merci, parfait.
Je pense que faut saisir le bon moment pour en parler, puis des fois, juste en parler un petit peu trop tôt, ça peut peut-être amener...
Étrangement, tu sais, c'était samedi, puis j'ai encore... un besoin de me positionner là-dedans. Mm-hmm. Si jamais vous voulez 418-971-1021, si vous l'avez vécu et tout, là, je vous lirai aussi entre-temps.
Oui, et 418-971-1021 également, si vous voulez envoyer des belles sympathies à Pascal CV, allez-y. Évidemment, pour nous écouter aussi, l'application Boulevard BLVD 102.1 disponible sur App Store et Google Play Store. Moi, fin de semaine, c'est drôle, hein, t'es comment la vie, moi, je dis toujours, elle est remplie de petits bonheurs. Puis j'ai vécu un beau petit bonheur vendredi d'aller à la lutte avec Val et Edou. Puis j'ai passé une belle soirée avec mon ado et ma blonde.
C'était où? C'était-tu au Centre Horizon?
Au Centre Horizon, la NSPW. Lou O'Farrell est redevenue une gentille. Moi, Lou O'Farrell, c'est ma lutteuse. Donc le Phoenix, elle s'est réconciliée avec Toxic. Ils se sont serrés dans leurs bras. C'était beau. C'était un beau moment. J'ai d'ailleurs écrit à Lou pour lui dire: waouh, quel moment de lutte incroyable. Et hier, j'ai passé une journée avec ma blonde. Mais tu sais, déjà nos restos, fait des commissions, fait un peu de bouffe.
Un dimanche.
Moi, je vais pelleter. Oui, on a fini ça un souper chez ma mère parce que demain, c'est la fête de mon beau Edou. Il va avoir 16 ans.
OK, tes gars sont quand même collés dans leurs anniversaires.
Fait qu'on y avait acheté un gâteau. Mais maudit que j'aime la vie quand elle est simple de même.
Quand tu te lèves, que tu sais pas trop ce que tu vas faire, puis qu'avoir du temps pour faire tes commissions, bien plaisant, t'es pas dans la poche.
On cuisinait. Ben, c'est plus Val qui cuisine. Là. Moi, j'ai dit: qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que là, je disais à la blague, je suis ton plongeur sexy parce que je l'avais à vaisselle.
Ah.
Mais j'avais...
Ça dépend pour qui.
Ouais,
hein?
C'est ça, exactement. Mais on avait une petite coupe de vin dans les mains.
Ouais.
On faisait la cuisine. Puis je regardais ma blonde, je dis: hey, je l'aime donc bien, cette femme-là.
Ah, c'est beau, ça, Jeff.
T'es le beau petit bonheur simple.
Je trouve que ça fait le pont sur ce que moi, j'ai mentionné de ma fin de semaine.
C'est ça. J'ai passé des beaux moments. Donc, plusieurs gens qui t'envoient les sympathies, Pascal.
C'est gentil. Antonine, t'as-tu suivi la politique en fin de semaine? T'as joué du piano? T'as été à la maison? Ouais. T'as-tu fait ton patio?
Ben là, tu m'as parlé de manteau.
Oui, j'ai fait le ménage de garde-robe. C'est super intéressant puis vraiment léger à comparer de tout ce que vous venez de dire.
Mais c'est essentiel.
Là, les gens à la maison le voient pas, mais je faisais des signes. Genre, demandez-moi pas ma fin de semaine, c'est tellement plate.
Parce que moi, elle est plate, ma fin de semaine.
J'ai fait le ménage de garde-robe. Puis mon chum avait, notre jour, il y avait 25 manteaux. Fait que ça a créé une petite chicane de coupe parce que j'ai dit, ça serait-tu possible d'arrêter d'acheter des manteaux? Voilà, vous savez tout de ma fin de semaine extraordinaire.
C'est une obsession vestimentaire, les manteaux, je l'encourage.
Non, encourage-le pas, s'il vous plaît.
Bon, ben tant qu'à ça, on va passer au caucus, Anto, t'es d'accord?
Ah oui, donc.
Le caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Anto qui ne voulait pas parler de ses manteaux, Colin. Mais il y a une personne, par exemple, qui veut parler d'un sujet important aujourd'hui, et c'est Mark Carney et le budget, et on l'écoute à l'instant même.
Le budget de 2025 est notre nouvelle stratégie économique pour répondre aux défis actuels et en sortir plus fort. Un plan qui s'appuie sur nos forces, nos valeurs et notre histoire d'aventuriers, de preneurs de risques et de bâtisseurs. Un plan pour un Canada confiant qui reprend le contrôle de son avenir en catalysant des investissements générationnels afin de protéger nos communautés, nos frontières et notre mode de vie.
Bon, Anto, on a un gouvernement minoritaire qui s'est comporté avec le budget comme un gouvernement majoritaire. Donc, qui aujourd'hui va avoir envie d'aller aux toilettes, va avoir un problème informatique, les enfants vont être malades, va devoir rester à la maison? C'est qui, là, les deux, trois qui voteront pas, là?
Écoute, je sais pas comment ça va finir ce vote-là, mais c'est quand même un suspense intéressant parce qu'on est rendu le jour même et honnêtement, on ne sait pas exactement comment les choses vont se terminer. On pense que le budget va passer. Parce qu'il n'y a personne qui a vraiment envie d'aller en élection. Juste un petit rappel de la composition de la Chambre. Le gouvernement est minoritaire. On parle d'un budget qui est à la fois très déficitaire, mais en même temps austère. Donc, tu déplais à la droite, tu déplais à la gauche. Il n'y a rien d'extraordinaire pour le Québec. Hein? Si on pense au Bloc québécois qui aurait pu aller chercher certains gains, c'est pas extraordinaire. Puis même le Bloc nous dise dans les corridors que... Il n'y a personne qui les a consultés véritablement avant de faire ce budget-là. Le Parti libéral, qui est à quelques personnes d'avoir sa majorité, donc là, on a eu une défection.
Est rendu à deux avec D'Entremont qui a traversé
D'Entremont a traversé. On a Matt Généroux qui n'a pas quitté finalement, mais qui dit quitter un jour, mais on ne sait pas trop. Mais il n'était pas là la semaine passée pour voter sur... Là, c'est des bebelles un peu parlementaires, mais après le dépôt d'un budget, on dépose un amendement. Après ça, il y a un sous-amendement, puis il faut voter là-dessus. Puis il faut bien voter parce que ça, c'est des votes de confiance aussi. Et Matt Généroux était absent pour le vote sur le sous-amendement des conservateurs. Bref, j'ai l'impression qu'on ne le verra pas beaucoup dans les prochaines semaines. Que Pierre Poilievre va éviter une vraie défection, mais que c'est un peu une défection passive, finalement, du côté de Matt.
Donc, lui, il serait absent. Fait que ça veut dire qu'il en reste un ou deux à être absent pour que le budget passe.
Mais là, c'est deux parce que le président de la Chambre ne vote pas. Là, on a su qu'Elisabeth May allait voter pour le budget, parce qu'il y a une députée du Parti vert aussi qu'il faut compter. Mais le NPD, on ne sait même pas exactement comment chacun va voter.
Oui, mais c'est ça. Parlant du NPD, je te fais entendre ce que Don Davis a dit à la Chambre des communes la semaine dernière, justement, concernant le budget de Mark Carney du Parti libéral du Canada.
This government's budget fails to deliver the transformational change promised and fails to meet the moment. It fails to provide any relief right now. For the millions of Canadians suffering through an affordability crisis, 60% are having trouble meeting their monthly expenses. Half are using credit cards or borrowing money for daily needs, paying interest rates of 19% or more. Why did the Liberals fail to provide concrete measures to help the millions of Canadians who need help now?
T'es en train de déchirer sa chemise comme de quoi le gouvernement libéral ne tient pas compte de 60 % de la population qui est endettée, ne tient pas compte du petit travailleur dans son budget. Fait que lui, il pourra pas être absent aujourd'hui ou voter pour. Là. Va falloir qu'il soit conséquent avec la sortie qu'il a fait.
Ben, être conséquent, tu sais. C'est-tu vraiment important, là, Jerry?
Oh, Anto, c'est le cynisme. Tu fais arriver le
cynisme en politique. D'habitude, je ne suis pas trop cynique, mais là, sur ce vote-là, je le suis. Parce que le Parti conservateur aussi déchire sa chemise.
C'est clair.
Dit que c'est épouvantable,
Parti ce
budget-là.
Québécois aussi, là, j'avais fait entendre des extraits des François Blanchet la semaine dernière. Là. Ben, il y a deux semaines, parce que le budget était déposé il y a deux semaines, le 4 novembre, que là, il n'y a rien pour le Québec là-dedans, plein d'industries forestières.
Donc là, si tu as des gens qui, tantôt, tu disais, vont aux toilettes, sont absents, il y a un petit bug électronique, peu importe. Le parti ne peut pas dire... Tant qu'à y être, soyez honnête. Dites, on s'est organisé pour que le budget passe parce que les Canadiens ne veulent pas d'élection, mettons. C'est de même que je dirais. Puis honnêtement, les Canadiens ne veulent pas d'élection.
Mais non, on ne veut pas retourner en élection.
Pense-y, retourner en élection tout de suite. Pourquoi? Puis je vais aller prendre un parti à la fois. Là.
Okay? Vas-y donc.
Donc, qui aurait le plus intérêt à partir en élection?
Bien, sûrement les libéraux, parce qu'ils pourraient peut-être aller chercher une majorité, mais encore là, il n'y a pas beaucoup de résultats avec les libéraux depuis l'élection. Là. Mark Carney nous avait dit « Je suis l'homme pour négocier avec Donald Trump. » Il n'y a pas de tarif qui a tombé, il y en a encore plus. Là.
Non, ça, en plus, les libéraux savent très bien. Ils ont battu le fer pendant qu'il était chaud le printemps dernier. Les gens ne connaissaient pas très bien M. Carney. Ce n'est pas un excellent campaigner, on va se dire la vérité.
Non, t'es un deuxième débat, Carney-Poilievre. Les gens ne seront pas indulgents avec Carney comme ils l'ont été au mois d'avril passé.
Exactement. Donc, les libéraux, c'est les moins pires, je dirais, parce qu'ils sont quand même premiers dans les sondages. On va dire ça comme ça. Ensuite, le Bloc, dans les sondages, c'est similaire. Bon, on va aller chercher un nombre peut-être similaire de députés, puis encore là, il y a toujours des risques d'en perdre, on ne sait jamais. Des élections, ça coûte cher. Donc, partir en élection pour aller chercher le même résultat, honnêtement, leur sortir les pancartes, là, puis ah ouais, là, ça tente à personne. Le NPD, c'est terrible. Je veux dire, ils n'ont pas une scène, ils n'ont pas de chef.
Ils n'ont rien.
Écoute, ce serait catastrophique pour eux. Et du côté de Pierre Poilievre, ben, en ce moment, il y a des doutes sur son leadership. Il y a un vote de confiance qui s'en vient. Il a besoin d'un vote de confiance très, très fort pour faire taire les doutes qui ne sont pas exprimés nécessairement toujours publiquement. Mais on a des députés en ce moment, des conservateurs, qui parlent off the record. Et on sent qu'il y a un petit doute qui plane dans la tête des gens, mais tant qu'on est en situation de gouvernement minoritaire et que tu as des élections qui te pendent au nez à tout instant, est-ce que tu vas vraiment commencer à remettre en question ton chef? Tu te dis, ben non, on peut partir en élection n'importe quand. Mais s'il fallait que Mark Carney réussisse à aller chercher d'autres députés ou qu'il y ait d'autres démissions au sein du caucus conservateur, là, tu te dis, bon, on est pogné de toute façon 3 ans, 4 ans avant les prochaines élections, alors on a le temps en masse de se trouver un meilleur chef que Pierre Poilievre. Ce serait catastrophique pour lui.
Clairement. Le Bloc québécois, j'ajoute, et tu me corrigeras si je me trompe, ne veulent pas partir en élection non plus parce que là, c'est l'année du PQ. C'est l'année pour se préparer pour la prochaine campagne électorale. C'est l'année du livre bleu.
C'est le livre bleu, puis on va en reparler plus en détail tantôt, mais il faut comprendre que les militants du Bloc puis les militants du Parti québécois, souvent, c'est des vases communicants, donc évidemment, tu ne veux pas les fatiguer. Il y a aussi une élection partielle qui s'en vient dans Chicoutimi. Donc, effectivement, là, en termes de ressources, c'est pas super intelligent là, de repartir en élection pour le Bloc québécois. Par contre, ce serait pas la fin du monde pour le Bloc. Tu sais, si d'aventure, il y avait une erreur, là, puis on tombait en élection, c'est pire pour Pierre Poilievre. Parce que vraiment, de partir en élection avec des gens qui doutent de toi, là, c'est pas un bon état d'esprit. Alors que le leadership de François Blanchet est bien installé, somme toute.
T'as entièrement raison. Parlant de leadership de Pierre Poilievre, il a dit qu'il ne changerait pas.
Non, my plan is to continue to lead and be the only leader in the country that's fighting for an affordable Canada.
Non, je ne changerai pas. Je suis le seul leader au Canada qui peut travailler pour, justement, là, tu sais, il parle de rendre le Canada abordable pour les familles. On le sait, son plan, une belle maison dans un beau quartier sécuritaire, qui est un beau plan, là, soit dit en passant.
Moi, je veux dire, il y a beaucoup de jeunes qui se demandent s'ils vont avoir une belle maison dans un beau quartier.
Ben, exactement.
Moi, je trouve que c'est une bonne ligne.
Oui.
Ce qui n'est pas une bonne ligne, c'est de dire que Justin Trudeau devrait être en prison présentement.
Ouais, c'est ça.
Puis là, ça vient tout effacer le reste. C'est ça le problème avec Pierre Poilievre, c'est que il est très cohérent. Moi, je pense qu'il ne pouvait pas dire « Ah, je vais changer ». Tu peux pas faire ça, là.
Ben
non. C'est comme d'avouer, finalement, que tout ce que tu dis depuis 3 ans, ça vaut rien. Tu peux pas faire ça. Par contre, tu peux faire attention à ce que tu dis. Parce que, là, je vais citer Churchill, mais on est esclave des mots qu'on a laissés échapper. Ceux qu'on a à l'intérieur de notre tête, ça nous appartient. On a le contrôle sur eux. Mais une fois que tu as dit quelque chose...
C'est bon, ça.
Et Churchill. Il avait dit des bonnes citations
c'est
tout le temps.
Ça,
Donc, pour Pierre Poilievre, évidemment, ce qui a fait mal aussi, c'est qu'il y a des conservateurs québécois qui sont sortis pour des anciens, là, surtout, parce que les députés sont solidaires pour l'instant, mais qui sont sortis pour dire que c'était pas la bonne personne. Mais c'est qui la bonne personne? Parce qu'avant de tirer sur le pilote dans ton avion, là, faut que tu t'assures d'avoir un autre pilote dans l'avion.
Ben, c'est ça, puis ça serait
sinon,
qui?
Sinon, tu plantes ton avion.
T'es, parce que là, on s'est déjà planté avec Aaron O'Toole, on s'est déjà planté avec Andrew Scheer. Il n'y a pas de Stephen Harper à l'horizon. T'es, ce que je parle, t'es d'un chef qui serait très fort à l'intérieur des rangs des conservateurs. Fait que c'est qui? Ça peut pas être Pierre Paulus. Ça peut pas être Gerald Deltel. T'es, je pense à des députés ici au Québec.
Non, puis de toute façon, je veux pas être plate, là, mais ça sera probablement pas un Québécois, là, le prochain chef du Parti conservateur. Il faut comprendre aussi que le Parti conservateur a beaucoup changé. À partir du moment où Jean Charest a perdu la dernière course à la direction, et de loin, là, c'était pas serré, là. Ce parti-là s'est transformé. C'est plus le parti de Mulroney. On est
d'accord. Non, non, en effet.
Donc, c'est beaucoup les gens de l'Ouest qui ont le contrôle sur le parti, et ça prendrait quelque chose de très gros et de très organisé pour tasser vraiment Pierre Poilievre. Donc, pour l'instant, ce qui se passe avec le Parti conservateur, c'est pas dans le but de le remplacer par quelque chose de mieux. C'est de la critique, mais qui finalement, on tire un peu dans la chaloupe. Et ça contribue effectivement à nuire à Pierre Poilievre et à nuire au Parti conservateur. Mais est-ce qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras? Donc, un vote de confiance fort, parce que sa base à Pierre Poilievre est encore avec lui. Là. Il faut pas penser là, qu'il y a une fronde là, ouverte. Mais ces doutes-là doivent être dissipés. Sauf que ce qui est le plus dur en politique, c'est que t'es toujours plus populaire quand t'es nouveau. Et plus tu avances, plus tu es usé. Si t'es au pouvoir, tu t'uses très rapidement. Mm-hmm. Mais même dans l'opposition, si tu perds une élection en étant dans l'opposition et tu restes chef de l'opposition, ça te coûte cher en usure aussi. Puis c'est ce qui se passe avec Pierre Poilievre.
Ouais,
c'est dur de remonter.
Corrige-moi si je me trompe, mais c'est rare qu'un chef va venir perdre une élection quand il était en avance comme ça dans les sondages et rester. Donc, c'est pour ça qu'il y a du grenouillage à l'heure actuelle. C'est parce qu'il y a énormément de conservateurs qui se disent « Hey, écoute, je vois pas comment je vais gagner avec ce gars-là. »
On s'entend-tu aussi que si Pierre Poilievre avait gagné le printemps passé, là, personne ne demanderait de changer sa personnalité.
Ben non.
C'est vraiment la défaite. Et quand tu regardes en termes de vote populaire, en termes de résultats électoraux, c'est pas Pierre Poilievre qui a perdu la dernière campagne. Non. C'est le NPD qui s'est écrasé et dont tous les votes se sont transférés aux libéraux. C'est pas Pierre Poilievre qui a perdu ses électeurs.
Ben non, parce qu'il a fait un score record avec au-delà de 40 % du vote. Là. De mémoire, c'est 41,2.
Les gens ont eu peur. Ils ont eu peur de Trump. Ils ont peut-être eu un peu peur aussi de Pierre Poilievre.
Oui.
Ils ont voté plus stratégiquement, se sont pincé le nez pour plusieurs des gens plus à gauche pour aller voter pour Mark Carney, alors qu'il n'est pas à gauche pantoute. Et ça a fait en sorte que dans plein de circonscriptions, ça a fait la différence, évidemment. Écoute, le NPD, les circonscriptions à travers le pays, dans lesquels ils ont réussi à avoir en haut de 10 %, ça se compte sur les doigts de deux mains.
Hey, t'imagines.
C'est complètement fou, là.
Ben Jack Mansing a fini quoi? Quatrième, je pense, dans son...
c'est une débandade.
Ah, ça a été la catastrophe.
Ça, c'est pas la faute de Pierre Poilievre. En tout cas, bref, si j'étais conservatrice, que je ne suis pas, mais si j'étais conservatrice, je me demanderais vraiment, est-ce que j'ai mieux pour piloter mon avion présentement? Mm-hmm. Et avant de tirer sur mon pilote, est-ce que je me suis assurée d'avoir une solution de rechange?
D'avoir une relève, c'est ça. Il n'y en a pas qui pointent à l'horizon. C'était le congrès du PQ cette fin de semaine, Anto. Et on a parlé énormément de livres bleus. On a parlé de monnaie québécoise. On a-tu trop parlé de souveraineté dans ce congrès-là?
Bien, le PQ, c'est un parti souverainiste.
Oui.
Qui promet un référendum dans un premier mandat.
Exactement.
Donc, je vois pas pourquoi ils parleraient trop de souveraineté.
Puis en plus, ils le disent depuis des mois, même sans être élus. Puis, sais-tu la question actuelle? Moi, la réponse, c'est oui, là. Tous les partis au provincial en jasent, ça va même au fédéral.
Oui, oui, ils ont vraiment créé un mouvement. Mais il y a eu quelques points qui ont été perdus dans les sondages pour Paul Saint-Pierre Plamondon, avec le dernier léger qu'on a vu il y a quelques jours. Là, on peut faire des hypothèses sur pourquoi on a perdu ces points-là. Est-ce que c'est parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a montré un côté un petit peu plus grognon, hein, parce que là, il se pogne avec des chroniqueurs, puis là, il fait flèche de tout bois et tout ça? Ou est-ce que, finalement, les gens commencent à craindre un petit peu cette histoire de référendum? On persiste et signe avec le référendum dans un premier mandat. Moi, je pense que c'est un peu des deux, mais je pense qu'il y a une troisième explication. C'est que peut-être aussi que les autres partis ont été moins mauvais. C'est-à-dire qu'on est allé rechercher en quelques points. Duhem est allé rechercher des points.
Ouais.
Après, Arthabaska, il en avait perdu. Ça a
les,
été plus dur.
Les libéraux profitent beaucoup de Marois Risky à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, qui est très bonne pour ramener François Legault dans ses derniers retranchements. Donc, on est allé chercher un petit 2 points-là.
La CAQ est allée même rechercher un peu. Donc, il y a un peu de tout ça. C'est comme si le buzz débuzzait un petit peu autour de Paul Saint-Pierre-Plamondon. Encore une fois, le temps. Les boss, ça ne dure pas à l'infini non plus. Mais bon, tu vois que le PQ a vraiment décidé de briser les tabous. C'est-à-dire, on s'assume, on s'assume, on s'assume. Avant, le mot référendum...
Ça, c'est positif.
Ben oui, c'est positif. Parce qu'avant, écoute, moi, à mon époque, quand je travaillais au PQ, là, quand on faisait un conseil national, là, on se disait « Hey, qu'est-ce qu'on va donner aux journalistes pour pas qu'ils se mettent à nous parler de la date du référendum, de la monnaie et de l'armée? » Okay? C'était le défi. C'était comme un jeu d'évasion. Là. Puis là, si on n'avait rien à leur dire, ils allaient se promener des militants. Puis ils allaient leur poser ce genre de questions-là.
Militants?
Ben, ils militent, eux autres. Puis un pays. Là, ça partait dans tous les sens. OK? Donc, à mon époque, si tu finissais un conseil national puis que tes titres, c'était « Le PQ veut une armée québécoise », on pleurait dans nos bureaux. Là, on était là,
et
là,
merde,
là, là,
c'est et, qu'on ben, et voilà.
Donc, là, on s'est dit, ben, pourquoi on a peur de ça? Parlons-en nous-mêmes.
Oui.
Et qu'on fasse le message, tant qu'à...
Ben, oui.
Ouais. J'ai posé la question ce matin à Pascal Paradis, qui était en entrevue à Marceau le matin. Est-ce que vous avez parlé d'autre chose que la souveraineté? Voici ce qu'il m'a dit.
On a fait les deux. On a parlé pendant 2 jours complets des PME et des régions. On a fait l'annonce aussi le samedi matin parce que ça, c'est une promesse. Puis je peux vous dire, les médias, hein, vous êtes quand on vous hier en point de presse et samedi en point de presse, les journalistes nous posaient déjà des questions sur les prochains chapitres. Puis là, est-ce qu'on pourrait vous parler de ça? Puis on dit, attendez, on s'en vient avec les premiers chapitres. Donc, on dévoile la vision d'un Québec souverain. On a eu l'occasion samedi matin, mais pendant 2 jours, on a parlé des PME et des régions.
Ça, c'est clair que les médias s'abreuvent au référendum.
Ben là,
on veut entendre parler de référendum, on veut entendre parler du livre bleu, puis là, on veut cette fameuse guerre bleue contre rouge aux prochaines élections.
Tu veux une bonne
ça
histoire?
Ça va vendre des copies, on est content.
Toi, là, si t'allais au Conseil national du PQ, là... Tu ferais-tu ton texte sur les PME puis les régions?
Ben voyons donc, je ferais mon texte là-dessus, moi, Anto. Écoute, bon.
Le gouvernement de la CAQ a utilisé le Fonds de développement économique dans lequel
il y a des milliards
chaque année pour faire des subventions discrétionnaires, notamment, surtout en fait, à des entreprises étrangères. Tout le monde est au courant des fiascos que ça crée, des gaspillages que ça crée. Le North Pole étant l'espèce de symbole. Il n'y a pas juste notre vote. Nous, on dit
ces milliards-là, PME,
au lieu de continuer à les gaspiller, on va les utiliser pour alléger la
fiscalité de nos entreprises
partout au Québec et notamment en région.
Pourquoi nos journalistes ne parlent pas de ça?
Ben, maudite bonne question.
Pourquoi?
Parce que c'est plat.
Mais je le sais, parce
ben
que si
ça.
Tu fais un texte là-dessus, personne ne le lit. Mais quand tu dis « Le Québec va avoir sa propre monnaie », et crime, là, le monde s'enflamme.
C'est la course au clic. C'est ça. Puis, pour vrai, je le sais que le PQ a fait ses devoirs, qu'ils ont parlé d'économie, qu'ils ont parlé des priorités des Québécois, mais c'est pas intéressant. Mm-hmm. Les journalistes, ils veulent parler de référendum, ils veulent parler d'armée québécoise. Puis, ils ont l'habitude, pour vrai, que ce soit controversé. Puis ça l'était, et ça l'est moins qu'avant. Il y a aussi, il faut quand même le dire, une volonté de la part du PQ de rendre le projet plus concret. Puis c'est toujours l'éternel dilemme pour le PQ, c'est si on garde ce flou, on se fait dire c'est flou. Si on est précis, on a l'air d'une gang d'illuminés, là, imaginez la monnaie québécoise, puis là, le monde rit, ça va-tu être René Lévesque, c'est Cernes, ha, ha, ha.
Oui.
Ben oui, mais là...
Ben en effet, moi, matin, j'ai René Lévesque, Maurice Richard, Jacques Parizeau. Sinon,
tu devrais être sur le comité, d'ailleurs, pour décider qui va avoir...
J'aimerais
sur
ça, ça
sous.
Serait le fun. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, que sont pris dans une solution, je trouve, perdant-perdant.
Puis, oui.
Parce que s'ils n'en parlent pas beaucoup, le monde va dire, ben c'est ça, vous nous arrivez avec ça, puis
c'est
on comprend même pas votre affaire, c'est
pas.
Tout croche. S'ils arrivent avec du concret, ben là, il y a des gens qui vont dire, ben là, voyons donc, crime... Et la monnaie, ça va dépérir, ça, cette monnaie-là.
Comment elle va valoir, cette monnaie-là?
Puis...
Ça, c'est la peur. Mais l'autre option, c'est la dérision. Parce qu'on se faisait tourner beaucoup en dérision. J'ai vécu beaucoup ça à mon époque, quand la souveraineté était moins hip, on va dire ça comme ça.
Où
on riait carrément des gens qui parlaient de souveraineté. Une armée québécoise, poahaha, là, ça faisait rire. Mais d'un côté ou de l'autre, il y a des conséquences à parler c'est concrètement du projet de souveraineté. Un des éléments qui revient régulièrement, c'est si le Québec devenait un pays, il faudrait recommencer à zéro pour toutes les ententes internationales, les conventions, les accords. Et ça, ça a créé de l'anxiété chez plein de gens, avec raison. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Séparer une province d'un pays, ce serait administrativement lourd. Là, je veux dire, il y a beaucoup difficile. De choses à régler. Donc, le PQ a décidé de dire, ben là, au lieu de balayer ça sous le tapis, puis de faire semblant que ça n'existe pas, on va mettre lumière là-dessus. Donc, tu sais, quand tu mets la lumière sur quelque chose, d'habitude, ça fait moins peur que quand c'est dans le noir, dans le fin fond d'une boîte, puis qu'on essaie de faire semblant que ça n'existe pas. C'est la stratégie, mais elle est coûteuse quand même, parce que comme tu dis, c'est un peu, c'est damn if you do, damn if you don't. Mm-hmm. Et ils ont choisi leur avenue à travers tout ça. Et je pense que la stratégie, c'est de dire, écoutez, par exemple, si la souveraineté est à 35%, bien, c'est un 35% solide pour le PQ. T'as pas besoin d'avoir 50+1 pour accéder au pouvoir. Mais si tu commences à être chambranlant sur la souveraineté, là, ton 35% devient plus clair-clair. Tu leur donnes la permission un peu d'aller voter pour n'importe qui parce que t'es plus sûr qu'il va y avoir un référendum ou pas. Puis là, on se met à parler d'autres choses. Puis là, c'est, tu sais, dans le fond, ton solide devient un peu mou. Puis peut-être que tu vas aller chercher des nationalistes non souverainistes mous, mais c'est peut-être... Donc, je pense qu'ils comptent vraiment sur ce 35%-là solide.
Je comprends très bien. Qu'est-ce que tu penses? Puis je termine là-dessus de plusieurs chroniqueurs qui disent « Ouais, ils devraient démontrer à la place son cadre de gérer la province. » Moi, je pense qu'il faut qu'ils démontrent les deux. Là. Puis ils le font avec en disant « Regardez ce que ça va être, un Québec souverain géré par nous autres. » Tu comprends qu'ils vont gérer la province comme ça aussi.
Oui, puis là, je veux juste dire que si le Québec devenait un pays, le PQ ne devient pas le parti d'État là, comme en URSS, puis après ça, ça va être gouverné pour toujours par le PQ.
On ne vient pas avec un régime autoritaire?
Non, c'est ça, non.
Ça ne vient pas avec, on va continuer à être une démocratie.
Puis ça me fait rire, parce que le monde de Québec solidaire, la partie, en fait, des électeurs de Québec solidaire qui voteraient oui, parce qu'il y en a beaucoup qui voteraient non, et qui votent pour Québec solidaire, puis qui disent, ben là, si on fait un pays, il ne faut pas que ce soit n'importe comment, il faut que ce soit un pays qui est ouvert, il faut que ce soit un pays environnemental, il faut que ce soit inclusif, il faut que ce soit de gauche. Non, on fait la souveraineté et ensuite, on fait des élections. Il faut que tu fasses une autre, il va y avoir une période de transition, puis après ça, tu as des élections, puis vous votez bien pour qui vous voulez.
Ben, c'est ça.
Et by the way, c'est pas parce qu'on fait un pays que tout va être parfait demain matin, et je ne pense pas qu'il faut que tout soit parfait non plus pour faire le pays.
En
dans
effet.
Le sens que le pays dans lequel on vit actuellement n'est
il
pas parfait,
parfait
non plus.
Aussi. Exactement. Il y a ses beautés et il y a ses moins bons côtés, comme un vote de budget de 82 milliards de déficit.
Mais on reste dans le Canada, pourquoi? Pour les finances publiques qui nous rassurent.
Ben parce qu'on va ramasser bientôt une grosse dette, si on ne sait pas.
Oh, il faut rembourser avant de partir. Tu vois, c'est jamais le bon moment de divorcer. Comme je
Antonine Iaccarini, caucus avec Antonine, du lundi au jeudi de midi à midi et demi. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente fin de journée. Va classer les manteaux.
Oh, c'est bon. Il faut que j'aille faire du marketplace.
Ah ouais? Tu vas mettre ça en vente? Tu vas faire de la grosse
pièce.
Mais
le fais pas comme le fraudeur là, qui vendait des affaires, qui demandait un dépôt puis finalement supprimer la conversation.
Non, nous autres, c'est bien legit. Nous autres, on est honnête. Allez, cherchez-vous un manteau. Envoyez des textos à Jeff, il va me gérer ça.
Salut!
Bye.
À demain. On fait une courte pause et par la suite, Luc Laliberté vient s'asseoir avec nous. On va parler de politique américaine. On va parler notamment de la visite, Pascal, c'est passé sous le radar la semaine dernière, du nouveau président syrien, Ahmed al-Shara. Pourquoi c'est important, cette visite-là, à la Maison-Blanche? Hey, c'est un ancien terroriste d'Al-Qaïda. Donc, c'est ce qu'on va parler avec Luc Laliberté. Et on va parler également du rififi entre Donald Trump et Marjorie Taylor Greene, qui s'est excusée d'avoir, justement, été dans l'équipe Trump et d'avoir fait en sorte, en public, de s'être moqué des gens qui étaient contre Donald Trump.
D'après moi, lui s'est couché quand même comme la veille, en se disant « une de plus, une de moins ».
Il l'a traité comme une traîtresse. On parle de ceci après cette courte pause. Vous êtes à l'émission Nageur sur Boulevard 102.1.